Quel renseignement voulez-vous ? Dit Pierrot. Il n'existe aucune contestation relativement aux créances. Oh ! Dit le petit Molineux. Les créances sont en règle, tout est vérifié. Les créanciers sont sérieux et légitimes. Mais la loi, monsieur, la loi ! Les dépenses du failli sont en disproportion avec sa fortune. Il constate que le bal, auquel vous avez assisté, dit Pierrot en l'interrompant, a coûté près de 60 000 francs, ou que cette somme a été dépensée en cette occasion. L'actif du failli n'allait pas alors à plus de 100 et quelques 1 000 francs. Il y a lieu de déférer le failli au juge extraordinaire sous l'inculpation de banqueroute simple.
Est-ce votre avis ? Dit Pierrot, en voyant l'abattement où ce mot jeta Birotteau.
« Monsieur, je distingue, le sieur Birotteau était officier municipal. »«
Vous ne nous avez pas fait venir apparemment pour nous expliquer que nous allons être traduits en police correctionnelle, » dit Pierrot. « Tout le café David rirait ce soir de votre conduite. »
L'opinion du café David parut effaroucher beaucoup le petit vieillard qui regarda Pierrot d'un air effaré. Le syndic comptait voir Birotteau seul. Il s'était promis de se poser en arbitre souverain, en Jupiter. Il comptait effrayer Birotteau par le foudroyant réquisitoire préparé, brandir sur sa tête la hache correctionnelle, jouir de ses alarmes, de ses terreurs, puis s'adoucir en se laissant toucher et rendre sa victime une âme à jamais reconnaissante. Au lieu de son insecte, il rencontrait le vieux sphinx commercial.
« Monsieur, lui dit-il, il n'y a point à rire. » « Pardonnez-moi, répondit Pierrot, vous traitez assez largement avec Monsieur Claparon, vous abandonnez les intérêts de la masse afin de faire décider que vous serez privilégié pour vos sommes. Or, je puis, comme créancier, intervenir. Le juge commissaire est là. »«
Monsieur, dit Molineux, je suis incorruptible. »«
Je le sais, dit Pierrot, vous avez tiré seulement, comme on dit, votre épingle du jeu. Vous êtes fin, vous avez agi là comme avec votre locataire. »«
Oh, monsieur !» dit le syndic, redevenant propriétaire comme la chatte métamorphosée en femme court après une souris. « Mon affaire de la rue Montorgueil n'est pas jugée. Il est survenu ce qu'on appelle un incident. Le locataire est locataire principal. Cet intrigant prétend aujourd'hui qu'ayant donné une année d'avance et n'ayant plus qu'une année à... »
Ici, Pierrot jeta sur César un coup d'œil pour lui recommander la plus vive attention.
« Et l'année étant payée, il peut dégarnir les lieux. Nouveau procès !» « En effet, je dois conserver mes garanties jusqu'à parfait paiement. Il peut me devoir des réparations. »«
Mais, dit Pierrot, la loi ne vous donne de garantie sur les meubles que pour les loyers. »«
Et accessoires, dit Molineux, attaqué dans son centre. L'article du code est interprété par les arrêts rendus sur la matière. Il faudrait cependant une rectification législative. » J'élabore en ce moment un mémoire à sa grandeur le garde des Sceaux sur cette lacune de la législation. Il serait digne du gouvernement de s'occuper des intérêts de la propriété. Tout est là pour l'État. Nous sommes la souche de l'impôt.
Vous êtes bien capable d'éclairer le gouvernement, dit Pierrot. Mais en quoi pouvons-nous vous éclairer, nous, relativement à nos affaires ?
Je veux savoir, dit Molineux avec une emphatique autorité, si M. Birotteau a reçu des sommes de M. Popinot.
Non, monsieur, dit Birotteau.
Il s'ensuivit une discussion sur les intérêts de Birotteau dans la maison Popinot, d'où il résulta que Popinot avait le droit d'être intégralement payé de ses avances sans entrer dans la faillite pour la moitié des frais d'établissement dus par Birotteau. Le syndic Molineux, manœuvré par Pierrot, revint insensiblement à des formes douces qui prouvaient combien il tenait à l'opinion des habitués du café David. Il finit par donner des consolations à Birotteau et par lui offrir, ainsi qu'à Pierrot, de partager son modeste dîner. Si l'ex-parfumeur était venu seul, il eût peut-être irrité Molineux, et l'affaire se serait envenimée. En cette circonstance, comme en quelques autres, le vieux Pierrot fut un ange tutélaire. Il est un horrible supplice que la loi commerciale impose aux faillis. Ils doivent comparaître en personne, entre leur syndic provisoire et leur juge commissaire, à l'assemblée où leurs créanciers décident de leur sort. Pour un homme qui se met au-dessus de tout, comme pour le négociant qui cherche une revanche, cette triste cérémonie est peu redoutable. Mais pour un homme comme César Birotteau, cette scène est un supplice qui n'a d'analogie que dans le dernier jour d'un condamné à mort. Pierrot fit tout pour rendre à son neveu cet horrible jour supportable. Voici quelles furent les opérations de Molineux consenties par le failli. Le procès relatif au terrain situé rue du Faubourg du Temple fut gagné en cour royale. Les syndics décidèrent de vendre les propriétés,
César ne s'y opposa point. Du Tillet, instruit des intentions du gouvernement concernant un canal qui devait joindre Saint-Denis à la Haute-Seine, en passant par le faubourg du Temple, acheta les terrains de Birotteau pour la somme de 70 000 francs. On abandonna les droits de César dans l'affaire des terrains de la Madeleine à M. Claparon, à la condition qu'il abandonnerait de son côté toute réclamation relative à la moitié due par Birotteau dans les frais d'enregistrement et de passation de contrat, à la charge de payer le prix des terrains en touchant dans la faillite le dividende qui revenait au vendeur. L'intérêt du parfumeur dans la maison Popineau et compagnie fut vendu au dit Popineau pour la somme de 48 000 francs. Le fonds de la Reine des Roses fut acheté par Célestin Crevel, 57 000 francs, avec le droit au bail, les marchandises, les meubles, la propriété de la pâte des sultanes, celle de l'eau carminative, et la location pour 12 ans de la fabrique, dont les ustensiles lui furent également vendus. L'actif liquide fut de 195 000 francs, auxquels les syndics ajoutèrent 70 000 francs, produits par les droits de Birotteau dans la liquidation de l'infortuné Roguin. Ainsi, le total atteignit à 255 000 francs. Le passif montait à 440, il y avait plus de 50%. La faillite est comme une opération chimique, d'où le négociant habile tâche de sortir gras. Birotteau, distillé tout entier dans cette cornue, avait donné un résultat qui rendait Du Tillet furieux. Du Tillet croyait à une faillite déshonnête, il voyait une faillite vertueuse. Peu sensible à son gain, car il allait avoir les terrains de la Madeleine sans bourse déliée. Il aurait voulu le pauvre détaillant déshonoré, perdu, vilipendé. Les créanciers, à l'Assemblée Générale, allaient sans doute porter le parfumeur en triomphe. À mesure que le courage de Birotteau lui revenait, son oncle, en sage médecin, lui graduait les doses en l'initiant aux opérations de la faillite. Ces mesures violentes étaient autant de coups. Un négociant n'apprend pas sans douleur la dépréciation des choses qui représentent pour lui tant d'argent, tant de soins. Les nouvelles que lui donnait son oncle le pétrifiaient. 57 000 francs la Reine des Roses! Mais le magasin a coûté 10 000 francs! Mais les appartements coûtent 40 000 francs! Mais les mises de la fabrique, les ustensiles, les formes, les chaudières ont coûté 30 000 francs! Mais à 50% de remise, il se trouve pour 10 000 francs dans ma boutique! Mais la pâte et l'eau sont une propriété qui vaut une ferme! » Ces jérémiades du pauvre César ruiné n'épouvantaient guère Pillerault. L'ancien négociant les écoutait comme un cheval reçoit une averse à une porte, mais il était effrayé du morne silence que gardait le parfumeur quand il s'agissait de l'assemblée. Pour qui comprend les vanités et les faiblesses qui dans chaque sphère sociale atteignent l'homme, n'était-ce pas un horrible supplice pour ce pauvre homme que de revenir en faillie dans le palais de justice commerciale où il était entré juge, d'aller recevoir des avanies là où il était allé tant de fois remercier des services qu'il avait rendus. Lui, Birotteau, dont les opinions inflexibles à l'égard des faillis étaient connues de tout le commerce parisien, lui qui avait dit « On est encore honnête homme en déposant son bilan, mais l'on sort fripon d'une assemblée de créanciers ». Son oncle étudia les heures favorables pour le familiariser avec l'idée de comparaître devant ses créanciers assemblés, comme la loi le voulait. Cette obligation tuait Birotteau. Sa muette résignation faisait une vive impression sur Pillerault, qui souvent la nuit l'entendait à travers la cloison s'écriant « Jamais, jamais, je serai mort avant !» Pillerault, cet homme si fort par la simplicité de sa vie, comprenait la faiblesse. Il résolut d'éviter à Birotteau les angoisses auxquelles il pouvait succomber dans la scène terrible de sa comparution devant les créanciers, scène inévitable. La loi sur ce point est précise, formelle, exigeante. Le négociant qui refuse de comparaître peut, pour ce seul fait, être traduit en police correctionnelle, sous la prévention de banqueroute simple. Mais si la loi force le failli à se présenter, elle n'a pas le pouvoir d'y faire venir le créancier. Une assemblée de créanciers n'est une cérémonie importante que dans des cas déterminés, par exemple s'il y a lieu de déposséder un fripon et de faire un contrat d'union, s'il y a dissidence entre les créanciers favorisés et des créanciers lésés, si le concordat est ultra-voleur et que le failli ait besoin d'une majorité douteuse. Mais dans le cas d'une faillite où tout est réalisé, comme dans le cas d'une faillite où le fripon a tout arrangé, l'assemblée est une formalité. Pillerault alla prier chaque créancier, l'un après l'autre, de signer une procuration pour son agrée. Chaque créancier, Du Tillet excepté, plaignait sincèrement César après l'avoir abattu, car chacun savait comment se conduisait le parfumeur, combien ses livres étaient réguliers, combien ses affaires étaient claires. Tous les créanciers étaient contents de ne voir parmi eux aucun créancier gai. Molineux, d'abord agent, puis syndic, avait trouvé chez César tout ce que le pauvre homme possédait, même la gravure d'Héros et Léandre donnée par Popinot, ses bijoux personnels, son épingle, ses boucles d'or, ses deux montres, qu'un honnête homme aurait emporté sans croire manquer à la probité. Constance avait laissé son modeste écrin. Cette touchante obéissance à la loi frappa vivement le commerce. Les ennemis de Birotteau présentèrent ces circonstances comme des signes de bêtise, mais les gens sensés les montrèrent sous leur vrai jour, comme un magnifique excès de probité. Deux mois après, l'opinion à la bourse avait changé. Les gens les plus indifférents avouaient que cette faillite était une des plus rares curiosités commerciales qui se fussent vues sur la place. Aussi les créanciers, sachant qu'ils allaient toucher environ 60%, firent-ils tout ce que voulait Pierrot.